Il est 9h01 sur Europe 1, un nouveau journal avec Hélène Zélani.
Dit que les stocks sont pas énormes, là ça se compte en jours de stock pour ce type de médicament. S'il y a une rupture de curare, c'est dramatique.
Pas assez de curare, pas assez de morphine, c'est la pénurie de médicaments en réanimation. 9 grands hôpitaux européens lancent un appel à l'aide, nous verrons ce qu'il en est dans les établissements français. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, promet de l'aide aux entreprises en difficulté. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin.
Il faut aujourd'hui que les banques fassent arriver cette trésorerie, cette liquidité à l'ensemble des entreprises.
Ces chiffres donnés ce matin par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, 5 800 000 contrôles effectués et 359 000 PV dressés pour non-respect du confinement. Et puis c'était le pape de Marseille, pape Diouf, qui a dirigé l'OM pendant 4 ans et mort emporté par le Covid-19. Nous appellerons Christophe Bouchet, qui a lui aussi dirigé l'Olympique de Marseille. Juste après ce journal, Mathieu.
Le confinement avec les enfants, mais passé la question du télétravail et de l'école à domicile, la question des vacances scolaires qui arrivent. Gilles-Marie Vallet, pour vous aider, vous conseiller, vous écouter aussi, pédopsychiatre à Paris. Je vous attends au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte, 9h02 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et donc d'abord cet appel à l'aide que lancent 9 grands hôpitaux européens, dont l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Ils seront bientôt à court de médicaments anesthésiants en réanimation pour les patients atteints du Covid-19, le curare ou encore la morphine. Alors où en est-on dans les hôpitaux français, Virginie Salmen?
Eh bien, des chefs de service de réanimation décrivent une tension sur des médicaments comme les curares, qui servent à paralyser les muscles respiratoires pour pouvoir intuber les malades sévères. À l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le professeur Bertrand Guidet surveille attentivement l'état des stocks.
On nous dit que les stocks ne sont pas énormes et qu'effectivement, ils activent la chaîne de production. Mais ça, c'est des médicaments absolument indispensables et pour lesquels il n'y a pas de substitut vraiment possible. Là, ça se compte en jours de stock pour ce type de médicaments. S'il y a une rupture de curare, c'est dramatique.
Et avec un tel afflux de patients dans un état grave, la consommation d'hypnotiques et de morphiniques pour endormir les patients et soulager la douleur n'ont jamais été aussi fortes. Alors, les médecins doivent passer en mode médecine de crise, comme le professeur Bruno Mégarban, chef de la réanimation de l'hôpital Lariboisière.
C'est pas simple, nous devons essayer d'affiner au mieux les dosages. Donc plutôt que de prescrire des doses stables, adapter en permanence la posologie. Parfois mélanger deux médicaments dans une même seringue électrique, parce que nous manquons de seringues électriques.
Pénurie aussi de cathéters, de respirateurs et même de tuyaux pour respirateurs. On ne jette plus une ampoule de curare, me disait un médecin. On l'utilise jusqu'à la dernière goutte.
Virginie Salmen, manque de médicaments mais aussi de matériel. Emmanuel Macron s'est engagé à passer à la vitesse supérieure. Il promet 4 milliards d'euros pour financer des commandes de médicaments, de masques et de respirateurs. Près de 500 patients sont morts en France en 24 heures, mais plus de 9000 au total sont sortis guéris de l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Aujourd'hui, de nouveaux transferts de malades sont prévus, cette fois pour soulager une dizaine d'établissements d'Île-de-France. 36 patients en réanimation vont rejoindre la Bretagne à bord de 2 TGV médicalisés. Ils vont rejoindre précisément Rennes, Saint-Brieuc et Brest.
Le chiffre est tombé ce matin et c'est une chute historique pour le marché auto français. Moins 72% en mars. Confinement, usines et concessions fermées. Les constructeurs s'attendent à une baisse de 20% pour 2020.
Et face aux très nombreuses entreprises en difficulté, François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, se dit mobilisé pour qu'elle puisse surmonter la crise grâce à ce qu'il appelle un bouclier de trésorerie.
Il y a toute une série de dispositifs qui ont été mis en place, notamment pour les PME et TPE. Du côté des pouvoirs publics, c'est le chômage partiel, c'est les reports de charges, c'est tout le soutien qui est possible à travers le fonds de solidarité pour les indépendants. Et puis pour assurer ce fameux bouclier de trésorerie, nous avons pris des décisions, nous, Banque Centrale Européenne, et il faut aujourd'hui que les banques fassent arriver cette trésorerie, cette liquidité à l'ensemble des entreprises. Alors ça passe notamment par ces prêts garantis par l'État qui ont été mis en place pour couvrir jusqu'à un quart du chiffre d'affaires annuel. C'est un dispositif absolument exceptionnel. Là, les chiffres sont en train de monter très vite. Je vous donne les chiffres à ce matin. On est à 29 000 demandes. On est à plus de 5 milliards de demandes qui sont arrivées avec une mobilisation forte des réseaux bancaires.
François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, au micro de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1. Il donne également ce chiffre. Chaque mois de confinement coûte environ 3% du PIB annuel.
9h06 sur Europe 1. Ils vont se retrouver face à une quarantaine de députés en visioconférence. Édouard Philippe, le Premier ministre, et Olivier Véran, ministre de la Santé, qui vont être auditionnés en fin de journée à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est le coup d'envoi de la mission d'information sur la gestion de l'épidémie. Elle va contrôler chaque semaine les mesures prises par le gouvernement. Notez-le sur vos agendas. 10 jours de décalage pour la déclaration de revenus. Ce sera à partir du 20 avril au lieu du 9, annonce de Gérald Darmanin. Pour les déclarations papier, la date limite passe au 12 juin, soit un mois de plus que prévu. Christophe Castaner a fait les comptes. 5 800 000 contrôles ont été effectués en un peu plus de 15 jours. 359 000 PV dressés pour non-respect du confinement. Le ministre de l'Intérieur qui le rappelle au cas où ce ne serait pas tout à fait clair, on ne part pas en vacances pendant la période de confinement. Changement de ton radical pour Donald Trump alors qu'on annonce 4000 morts aux États-Unis, chiffre qui a doublé en 3 jours. Les Américains, dit-il, vont faire face à 2 semaines très douloureuses avec entre 100 000 et 240 000 morts si les restrictions actuelles sont respectées. Le choc, c'est la une du journal La Provence ce matin. Pape Diouf, à la tête de l'OM pendant 4 ans, est mort du Covid-19 à Dakar, au Sénégal. Il avait 68 ans.
Et nous sommes en direct avec Christophe Boucher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Tours aujourd'hui, mais les supporters de l'OM s'en souviennent bien. Vous avez, vous aussi, dirigé l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup d'être en direct avec nous aujourd'hui. Pape Diouf, journaliste, agent de joueur. Et puis, c'est vous, avec José Anigo, qui aviez persuadé Pape Diouf d'entrer à l'OM en 2004. Qu'aviez-vous vu, senti chez lui à l'époque ?
D'abord, c'était un homme de football, c'était un agent, et puis moi, je le connaissais depuis très longtemps, hein, ça fait, je le connaissais depuis 1985, 86, on a été journalistes ensemble, donc on se connaissait bien, donc vous savez, dans le football, une des premières qualités, c'est de se connaître, c'est la loyauté, parce que c'est un milieu qui est un milieu compliqué, dur, c'était un humaniste avant tout, c'est quelqu'un qui aimait les hommes, qui aimait ses joueurs, qui aimait les joueurs qu'il avait en portefeuille, comme on dit dans le métier d'agent. Et je sais qu'il connaissait bien à la fois aussi le contexte marseillais, c'est important, pour venir à Marseille, de bien savoir là où on met les pieds. Bon voilà, à l'époque les locaux de l'OM étaient quasiment en face des locaux de son métier d'agent. Donc on se voyait souvent, donc voilà, c'est au fur et à mesure le convaincre de venir.
Et je reprends les mots de l'édito de Virginie Fulpin, un esprit de partage, un homme de lettres, amour du club, le père même de beaucoup de joueurs. Comment expliquer que Pape Diouf ait gardé une telle aura auprès des supporters sans, je le précise, sans aucun titre remporté par l'OM sous son règne ?
D'abord, il a remis au niveau des joueurs, il a remis l'OM sur pied. Il faut pas faire d'erreur historique. C'est-à-dire que l'OM était en mauvaise posture à l'époque. On sortait vraiment d'un moment douloureux. Il a su trouver la bonne distance. C'était Pape Diouf, hein. La bonne distance avec chacun. Il avait la bonne distance avec les joueurs, avec les dirigeants du foot et avec les supporters. Il savait leur parler crûment. Il savait leur parler vrai et en même temps il les respectait profondément. Et donc ça, je crois que c'est ce qui vaut pour tout homme, pour toute femme, mais les supporters, évidemment, ils avaient souvent l'impression d'être méprisés par les dirigeants, d'être oubliés, d'être mis de côté. Lui, il savait les intégrer dans le système.
Merci beaucoup Christophe Boucher, maire de Tours, ancien président de l'OM, merci d'avoir été l'invité du journal de 9h d'Europe 1.
Et puis une pensée aussi au journaliste Pierre Bénichoux qui est mort hier à 82 ans, ancien dirigeant de l'Obs, vous l'aviez entendu sur Europe 1, aux côtés de Laurent Ruquier.
Évidemment, merci beaucoup Hélène Zellani, il est 9h10.
Matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et désormais, à la fin du journal de 9h, nous retrouverons tous les matins le rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini, chez elle, à Boissé, en Haute-Loire, télétravailleuse avant l'heure. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Alors Fanny, on se questionne en ce moment sur la relocalisation de notre consommation. Et vous aviez envie de cibler ce matin une plante qui est devenue, en moins de 10 ans, une star de nos salles de bain, l'aloe vera.
Oui, on connaît bien l'aloe vera pour ses nombreuses vertus, notamment pour ses capacités à régénérer et à hydrater la peau en profondeur. Du coup, chaque année, ce sont des millions de litres de pulpe d'aloe vera qui s'écoulent sur le marché mondial. Une tendance en plus qui s'accroît au rythme d'une demande toujours plus importante, entraînant la conversion bien souvent de terres arables en vastes plantations de monoculture, notamment pour l'industrie alimentaire, mais surtout pour l'industrie cosmétique. Et en plus, la vague bio ne fait que renforcer le phénomène.
Alors que vous nous apprenez que l'on peut trouver exactement les mêmes propriétés dans une petite plante passe-partout, bien de chez nous.
Mais oui, complètement. Une petite plante insignifiante qui n'attire pas notre regard et pourtant, elle présente des propriétés identiques à celles des produits que nous convoitons à plusieurs milliers de kilomètres. Il s'agit du sédum, connu sous le nom d'orpin aussi. C'est une petite plante grasse, sauvage, qui pousse sur des substrats très rudimentaires. Parfois, d'ailleurs, on en voit en bordure des chemins entre les cailloux. Elle orne aussi beaucoup les jardins avec sa belle floraison, tantôt jaune, blanche ou pourpre. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa pulpe. Il suffit en fait d'écraser le sédum sur la peau pour avoir des effets réparateurs et hydratants immédiats.
On peut en faire pousser sur le balcon ?
Alors non seulement il y en a partout, mais on peut aussi en faire pousser chez nous, en appartement. C'est une plante très résistante, y compris en cas de sécheresse. Si vous oubliez par exemple de l'arroser, pas de souci, elle reprendra vigueur avec seulement quelques gouttes d'eau. D'autant que s'il n'y a que quelques mètres à franchir entre votre balcon et la salle de bain, mais le bilan kilométrique sera quasi nul face à sa concurrente Made in Mexico. L'aloe vera, sa réputation se ternir vraiment si nous prenons de nouvelles habitudes moins exotiques, mais tout aussi efficace.
Ah, mais c'est cette plante que vous avez fait découvrir à Nicolas Hulot, Fanny Agostini, ça me revient.
C'est celle-là.
L'émission, votre nouvelle émission en terre ferme sur Ushuaïa TV. Merci beaucoup.
On retrouve.
Vous lui avez appris des choses aussi au contact de la nature, comme tous les matins, notre rendez-vous à la ferme, à retrouver sur Europe1.fr. Merci Fanny Agostini. 9h12, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Sédum va se régaler aujourd'hui parce que c'est le roi du jardin sec, le sédum. Mais bien là, aujourd'hui, ce temps sera très sec sur l'ensemble des régions de France, avec peut-être, sûrement, un tout petit peu de pluie dans l'Aude, dans le Tarn, sur le Languedoc-Roussillon, des nuages menaçants sur le Pays Basque, mais sans pluie, sur les Landes, la vallée de la Garonne, et un temps nuageux sur les Cévennes et les Alpes du Sud. Bref, allez, j'hésite un peu parce que franchement, j'ai pas envie de dire qu'il va faire mauvais dans ces régions du Sud ou qu'il fera beau, qu'il pleure beaucoup, c'est pas vrai. Donc ce sera une journée ensoleillée, globalement ensoleillée. Ne boudons pas notre plaisir, bien que nous soyons confinés. Nous sommes en train de basculer vers un temps plus doux. Alors à partir de demain ça sera encore froid. Hein. À partir de vendredi, ça commencera un tout petit peu à se réchauffer. Mais samedi, dimanche, ce sera printanier. Et la semaine prochaine, selon la semaine prochaine, nous aurons un temps dans l'ensemble extrêmement doux encore.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous restez bien sur Europe 1. Il est 9h13 et jusqu'à 9h30, nous allons revenir sur le confinement avec des enfants en période de vacances scolaires. Les vacances arrivent, comment s'organiser? Des solutions, les vôtres peut-être, au 39-21. A tout de suite.
Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, il est 9h15 et vous le savez, votre radio, la radio ouverte, s'est mise à votre service pendant cette période de confinement, à l'écoute de vos témoignages bien sûr, et dans cette matinale prolongée, une question, le télétravail plus l'école à domicile aujourd'hui, mais comment demain réussir à gérer nos enfants tout en gérant les activités du quotidien pendant les vacances scolaires? Et je suis en direct avec Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre à Paris. Bonjour Gilles-Marie Vallet.
Bonjour.
Vous êtes aussi l'auteur des 101 règles de l'éducation bienveillante. Alors pour démarrer, et en ce moment il y a peut-être une résonance particulière, ça veut dire quoi pour vous bienveillante ?
Bienveillance, c'est être à l'écoute des besoins de l'enfant, ce qui ne rime pas forcément avec trop de laxisme. C'est souvent mal compris. En fait, l'idée, c'est d'évaluer ce qui, dans la demande de l'enfant, est légitime et pertinent, et dans quelle mesure, effectivement, il faut pouvoir y répondre pour que l'enfant grandisse bien, se développe bien.
Alors, terminez votre phrase, je voulais pas vous couper.
Et c'est vrai qu'en cette période de confinement, les repères sont un peu brouillés. C'est en cela que ça devient plus complexe d'être un parent à l'écoute.
J'ai reçu ce message sur le hashtag Radio Ouverte beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va se rendre compte que ce sont les vacances scolaires finalement ?
Alors, ça va être d'autant plus difficile que les repères justement ont été brouillés en période scolaire, c'est-à-dire qu'effectivement, les rythmes habituels qui consistent à se lever à telle heure, aller à l'école à telle heure, enchaîner les activités de telle façon, ont complètement été remis en question. Et les 15 jours qui viennent de se passer ont eu pour fonction, enfin, l'idée a été de voir comment les parents pouvaient réorganiser à la fois leur travail à la maison et endosser le rôle de, entre guillemets, enseignant à domicile, ce qui est compliqué. Et là, il va falloir à nouveau modifier ses repères pour que l'enfant sente bien qu'il y a quand même une ambiance de vacances, même si finalement les choses n'auront pas vraiment changé entre la semaine dernière et la semaine de vacances qui va commencer.
Oui, c'est une réalité. Le hashtag Radio Ouverte et le 3921, tiens, avec Marie qui nous a appelé ce matin. Bonjour Marie.
Oui, bonjour Mathieu.
Alors, je complète ma fiche en direct. Combien d'enfants à la maison, Marie?
Alors, un seul.
Un seul. Il a quel
oui.
âge?
Il a 11 ans. Il est en 6e.
Il a 11 ans, il est en 6e. Alors d'abord, ça se passe bien jusque-là, l'école à la maison, le travail avec lui?
On a le mauvais rôle de professeur. C'est un mauvais rôle supplémentaire pour un parent, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il faut râler un petit peu plus, parce qu'on se rend compte qu'à l'école, bah, finalement, ils ont toute une discipline qui leur est donnée et qui n'est pas imposée par les parents. Mmh. Donc c'est vrai qu'on a un mauvais rôle supplémentaire depuis quelques semaines, et c'est pas si évident que ça, donc les vacances vont déjà nous soulager à ce niveau-là.
Pour vous, ça va être un moment de soulagement. Mais il va falloir les occuper, les enfants, pendant cette période-là.
Oui. Bah, ce qu'on a fait de notre côté, c'est qu'on lui a gardé des horaires d'écolier. Il s'est couché de bonne heure, il s'est levé de bonne heure comme s'il allait à l'école. Donc il était connecté sur le PC tous les jours, comme là ce matin, il est sur le PC, il est 8h30, il est dès 8h30 en fait. Donc déjà ses horaires vont changer.
Là, c'est-à-dire que par exemple, le changement, et je me tourne vers notre expert, hein, si je puis me permettre, Gilles-Marie oui. Vallée, le changement chez Marie, ce sera avec un changement de rythme tout simplement, plus suivre le rythme scolaire nécessairement, mais laisser un peu de gras.
Tout à fait, et c'est tout à fait pertinent d'avoir, dans un premier temps, cherché à coller au plus près, même si bien évidemment c'est pas facile et c'est pas comment dire et justement nous parents nous ne sommes pas enseignants, donc si nous n'y arrivons pas aussi bien c'est pas grave, rester au plus près du rythme scolaire pour pouvoir pendant les vacances modifier ce rythme. J'apporterai une petite nuance. C'est vrai que j'ai entendu votre ton se modifier lorsque votre auditrice a dit qu'elle n'avait qu'un enfant, mais le paradoxe c'est qu'un enfant c'est pas forcément plus facile que s'il y en a plusieurs, parce que justement pendant les vacances une fratrie va pouvoir oui. aussi s'occuper entre elles.
Ah non, je suis alors d'accord, là, je confirme, hein, je les vois de là où je suis, c'est pratique,
hein. Exactement, alors qu'un enfant bah, il va être très très demandeur. C'est-à-dire que c'est une des caractéristiques que j'observe pendant cette période de confinement, c'est que les enfants deviennent d'autant plus demandeurs de la présence de leurs parents qu'effectivement ils sont confinés.
D'autant plus, donc on va faire des travaux dans sa chambre en fait. On devait changer le papier peint dans sa chambre depuis longtemps. On devait faire une chambre de jeune homme, en fait. Donc, on va essayer de s'organiser comme ça. Et puis, c'est les soirées qui vont être plus longues, parce que c'est vrai que nous, on avait des soirées Netflix, pour pas faire de publicité. Bon, là, on va avoir des programmes un petit peu plus... ça va être des Marvel, des choses comme ça, quoi. Ça va...
Ah, c'est juste
c'est
le...
là où on va souffrir, je crois.
Bah, il y aura ce qu'il faut sur Netflix, je crois, pour votre fils.
Oui, alors il y a tout ce qu'il faut,
c'est
très bien.
c'est vrai qu'en ce moment... Mais vous savez, Marie, je peux vous garder avec nous?
Oui.
Bon, on va marquer une petite pause et puis on continue l'échange avec le docteur Gilles-Marie Vallée et puis avec d'autres appels, d'autres témoignages sur le hashtag Radio Ouverte notamment. A tout de suite sur Europe 1.
Leclerc. En cette période de confinement, toutes les équipes des centres Leclerc sont mobilisées pour que vos courses se déroulent dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Nous effectuons régulièrement le nettoyage de nos tapis de caisse, des lecteurs de cartes et équipements en contact avec les mains, ainsi que des poignées de chariots et des paniers. Des écrans protecteurs sont positionnés devant les caisses. Les réapprovisionnements sont réguliers et les horaires d'ouverture vous permettent de répondre à vos besoins tout au long de la journée. Mais en cette période particulière, vous jouez aussi un rôle essentiel en respectant une distance de plus d'un mètre avec les autres, en n'achetant pas plus que d'habitude et en étant bienveillant avec ceux qui font que nos magasins continuent de fonctionner. Parce que l'on a tous un rôle à jouer, vous pouvez compter sur nous.
Leclerc.
Allez faire comprendre à votre chauffe-eau que ce n'est pas le moment de tomber en panne. Chez Leroy Merlin, nos magasins sont fermés mais nous restons mobilisés pour vous aider. Pour les produits de dépannage et de première nécessité, plomberie, électricité, chauffage, Commandez en ligne sur leroymerlin.fr et 2 heures après, vous pouvez venir retirer votre achat en toute sécurité à l'extérieur du magasin. Liste des produits et conditions sur leroymerlin.fr.
Mathieu Béliard.
Et Marie, je crois, sur Europe 1. Vous êtes toujours là, Marie ?
Oui,
parce que je voulais questionner Gilles-Marie Vallée par rapport à ce que vous disiez à la toute fin de votre intervention. Je rappelle que nous sommes avec Gilles-Marie Vallée, qui est pédopsychiatre et auteur des 101 règles de l'éducation bienveillante aux éditions Larousse Poche. La facilité, et je ne juge vraiment pas, parce que d'ailleurs je le pratique à la maison aussi, ça va être de se tourner vers des écrans, Gilles-Marie Vallée.
Oui, comme vous dites, c'est la facilité. Parce qu'à la fois, l'enfant, et même si c'est moins valable pour les ados qui trouvent dans le confinement finalement un certain confort qui entre en résonance avec la tendance naturelle de l'adolescent à justement plutôt rester dans son monde, un enfant a besoin quand même d'activité motrice. Et ce qui va être complexe, c'est d'arriver justement à trouver la possibilité de faire à la maison, si on n'a pas la chance, c'est pas le cas de tout le monde, d'avoir un balcon ou un jardin, de pouvoir quand même avoir des activités un peu physiques dans lesquelles l'enfant va pouvoir, évacuer un certain nombre de tensions et d'énergie.
Oui, alors, si je peux me permettre...
Mais allez-y, Marie, c'est super.
Il ne touche pas aux écrans de l'après-midi. Hein. En fait, l'après-midi, on fait un peu une école à l'anglaise, on va dire. L'après-midi, alors, on a la chance d'avoir un jardin. Donc, son papa, pour l'instant, lui apprend un peu le bricolage. Alors, on essaie qu'il ne se blesse pas, parce que... Mais on lui apprend à faire des choses un peu à l'extérieur et puis à lire aussi, à prendre des livres. Et on discute, on cuisine, mais il n'y a pas d'écran de l'après-midi en fait. Pour
d'accord.
Qu'il puisse profiter non, mais
vous avez bien fait de corriger, Marie. J'allais pas vous laisser avec cette image de maman qui allait laisser son fils toute la journée devant les écrans.
Ah, mais ça m'est déjà arrivé. Hein.
Mais je sais, Marie, mais ça nous arrive tous. C'est pour ça que je dis ça en vous taquinant un peu. Merci beaucoup de votre appel, Marie. Merci mille
je
fois.
Vous en prie.
Avec le docteur Gilles-Marie Vallée, c'est très concret. Et je reprends aussi dans ce que disait Marie, les occupations des enfants. En ce moment, il faut les occuper et pendant qu'on est en télétravail, s'occuper de leur scolarité. Là, pendant les vacances, on peut aussi en profiter pour d'autres activités comme on aurait fait normalement avec les grands-parents dans ces vacances scolaires.
Tout à fait. Et Marie a indiqué des idées tout à fait intéressantes, à savoir les associer aussi aux choses du quotidien pour en faire des activités un peu ludiques. C'est-à-dire effectivement préparer le goûter ou aider au repas pour qu'il y ait effectivement en dehors de l'occupation purement distractive et notamment très très passive comme les écrans, des choses plus manuelles, parce qu'effectivement on va pas pouvoir tout le temps sauter partout ou courir, et donc le relais peut être pris par des activités manuelles, par des jeux de société, c'est-à-dire des choses vraiment concrètes et qui mobilisent le corps et l'esprit.
Et cette question aussi sur le hashtag Radio Ouverte, que répondre aux enfants qui vont nous dire « je suis privé de vacances » Peut-être pour des plus jeunes, c'est important aussi. Hein.
Ah oui, c'est important. Alors, ce sera évidemment plus facile pour les parents qui ont réussi à maintenir un certain rythme scolaire, c'est-à-dire dès le matin, même si on est plus souple sur les horaires. Marie disait 8h30, c'est effectivement l'idéal, mais en pratique, si l'école à la maison commence plus tard, ce qui va être important, c'est surtout le rythme et le symbole qui est on s'isole dans un endroit spécifique qu'on a identifié comme l'endroit des cours à la maison, etc. Parce qu'après, c'est ce qui va permettre de dire si t'es en vacances, puisque les activités qu'on fait, ce sont pas des activités d'apprentissage, ce ne sont plus des devoirs, c'est des activités plutôt ludiques. Et puis moi, je troque à nouveau mon rôle d'enseignant, de maître ou de maîtresse, pour celui effectivement de parents qui avec qui on joue, avec qui on a des activités plus ludiques.
Je sais qu'on parle des enfants essentiellement, Gilles-Marie Vallée, mais je m'adresse aussi à vous pour les parents. On a le droit de s'agacer, on a le droit d'être fatigué dans cette situation-là. Faut bien l'avoir intégré.
Tout à fait. Et j'ai envie de dire, on a le droit aussi de... je reviens un peu sur la période juste avant les vacances et la période scolaire. On a le droit aussi de rester parent. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup d'appels ou de consultations en téléconsultation avec des parents qui étaient très inquiets parce qu'ils ne se sentaient pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'ils me disaient, les enseignants nous envoyaient une tonne de devoirs, mais j'y arrive pas, mes enfants ne veulent pas. Enfin, on a le droit, effectivement, de ne pas être un enseignant parfait parce que ce n'est pas ce que l'on est. De même qu'on a le droit de ne pas être un, entre guillemets, grand-parent parfait. parler puisqu'on est parents. Et effectivement, on sait bien que les papis, les mamies vont, ils ont l'habitude de gérer les vacances quand nous, on est encore au travail. Donc non, on peut pas les remplacer. Pour autant, ça reste une période de vacances parce que les rythmes sont différents, parce qu'on est plus souple sur les horaires de coucher, parce qu'effectivement,
c'est là que ça va se jouer, oui.
Mais c'est important de leur dire que c'est quand même des vacances parce qu'effectivement, ça risque d'être une grande source de frustration.
Merci beaucoup, docteur Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre à Paris, auteur des 101 règles de l'éducation bienveillante aux éditions Larousse Poche. Vous avez le temps de lire un peu en ce moment, ça peut vous aider pour les vacances. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos auditeurs ce matin. Et j'attire aussi l'attention de tous les auditeurs d'Europe 1, quel que soit leur âge, parce qu'il y a un moment, où sur cette crise du coronavirus, on arrive à échanger entre adultes et enfants, je le sais, à l'écoute d'Europe 1. C'est le vendredi, pendant les petites voix, où on donne la parole aux enfants du monde entier qui échangent entre eux. Hein. On se retire, on s'est face pour eux. C'est le vendredi et je vous rappelle que s'il y a des questions sur le coronavirus chez vous, chez les enfants qui sont à l'écoute en ce moment avec vous, eh bien vous envoyez cette question, lespetitesvoix@europe1.fr. Vendredi, on va s'intéresser en particulier aux parents qui ont été ou qui sont malades du coronavirus ou encore aux enfants dont les parents sont des soignants en première ligne à l'hôpital. Vos questions, lespetitesvoix@europe1.fr. Merci beaucoup encore au docteur Gilles-Marie Vallet. J'insiste, hein, puisque je prends le temps, on est à votre service pendant toute cette période sur la radio ouverte et on continue nos Facebook Live après Roland Pérez pour le droit et Emmanuel Duteil pour l'économie. 1er avril oblige, aujourd'hui on va vous aider avec les enfants avec un petit atelier tuto bricolage de poissons d'avril en direct sur le Facebook d'Europe 1 à 11h30. Tout est dit, il est 9h28 et Philippe Vandel est là. En tout cas, son générique.
Ouais. Bonjour, je suis là aussi également. Bonjour Mathieu, ça va ?
Ça va très bien, et vous ?
Et si la question est si les autorités chinoises avaient menti et donné les infos avec retard ? C'est la thèse de RSF Reporters sans frontières. Et son patron, Christophe Deloire, sera avec nous pour faire le point. Nous invitons ensuite Marina Carrère-Dancos. Elle chôme pas, elle présente le Mac de la Santé. Elle présente Allo Docteur, elle est médecin. Elle sait de quoi elle parle dans cette crise. Et puis Eric Ruff, qui dirige la Comédie Française. Vous savez ce qu'ils font à la Comédie Française ? Ils ont lancé depuis lundi leur première web télé. Leur télé en ligne. Imaginez la tête de Molière s'il tombait là-dessus.
Oui, j'ai du mal à imaginer. Philippe Bordel pour Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1. Merci beaucoup. Vous retrouvez tous vos programmes évidemment sur la radio ouverte. Moi je serai là demain matin comme tous les jours, hein, à 6h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.